sur le thème de la discipline dans l'église locale. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dans les premières séances, eh bien, vous aurez l'occasion évidemment de réécouter le début sur le site. Et pour ceux qui n'étaient pas là également, je rappelle qu'en effet, c'est un sujet un peu particulier, c'est un sujet un peu sensible, c'est un sujet difficile à aborder, parce que c'est un sujet qui fait très peur, qui semble très autoritaire. C'est un sujet aussi où beaucoup de personnes ont eu au cours de leur vie à vivre des blessures dans l'Église, des difficultés dans l'Église. Et donc, on veut aborder ce sujet justement pour clarifier le sens de ce que la Bible dit à ce propos-là. Et justement pour qu'à l'avenir, nous soyons tous à l'aise avec ce thème et à l'aise avec ces situations de discipline, que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible dit, pourquoi est-ce que ça doit se faire ainsi, pourquoi est-ce que tel principe existe. Et donc voilà, c'est vraiment le but de cet enseignement. Et n'hésitez pas, si à la fin, vous avez des questions, des malaises, des choses, n'hésitez pas, on peut toujours en parler pour avoir une explication en un à un. Pour rappel, les dernières fois, nous avions vu premièrement que la discipline dans l'Église, c'est un sujet qui est largement abordé dans l'Écriture. Ce n'est pas un sujet mineur, ce n'est pas un détail. Toute la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, nous parle de la discipline dans l'Église locale. Et nous avions dit que la discipline dans l'Église, c'est un critère de santé de l'Église. Une église où on n'exerce pas la discipline est une église qui immanquablement va perdre sa santé spirituelle et peut même perdre la présence de Dieu. Rappelez-vous de ce verset, « Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier. » Et donc nous avions dit que c'était vraiment quelque chose d'important que d'exercer la discipline dans l'église et que de comprendre le sens de la discipline. Et la dernière fois, nous avions expliqué que la discipline s'exerce dans le cadre de l'église locale. Et nous avions expliqué que tout chrétien est appelé à être membre d'une église locale. Vous vous rappelez? À être membre d'une église locale. Et on avait dit que être membre d'une église locale, c'est pas je vais à Jumet, je vais à Ransard, je vais à Péroué. C'est réellement je suis membre d'une église locale, j'en fais partie. Cette église locale a des responsabilités envers moi et j'ai des responsabilités envers mon église locale. Mon église locale est redevable de prendre soin de moi, de m'aimer, de m'enseigner, mais je suis redevable envers mon église locale de mon témoignage, de ma vie. Et rappelez-vous qu'on était arrivé sur l'aspect que dans l'église locale, nous sommes responsables les uns des autres. L'église locale, c'est pas un bâtiment où chacun vient, s'assied, se regarde, se fait la bise et rentre chez soi. C'est une famille où nous sommes tous responsables les uns des autres. Et donc responsable, ça veut dire dans le sens de l'amour, mais aussi dans le sens de veiller les uns sur les autres. Alors rappelez-vous, on avait dit veiller sur, surveiller, c'est la même chose. Donc je dois veiller sur mon frère. Alors je dois veiller sur mon frère quand sa santé n'est pas bonne, évidemment. Mais aussi veiller sur mon frère quand je sens que mon frère est en train de déraper. C'est aussi ça, l'église locale. Alors rappelez-vous, on avait vu que nous sommes responsables de nous aimer les uns les autres, responsables de nous servir les uns les autres, responsables de nous encourager les uns les autres, responsable de nous avertir les uns les autres, responsable de nous protéger les uns les autres. Nous devons nous protéger les uns les autres. C'est quoi le but? Qu'au retour du Seigneur, nous soyons tous prêts, n'est-ce pas? Que nous soyons tous prêts, que nous soyons tous en état d'être repris. Et pour cela, eh bien, Dieu a prévu l'Église pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Et nous sommes responsables de nous protéger de quoi? Premièrement, du péché. Le péché coupe notre communion avec Dieu. Le péché nous détruit de l'intérieur. Le péché détruit nos familles. Le péché détruit nos espaces. Donc nous sommes responsables de nous protéger du péché. Nous sommes responsables de nous protéger du refroidissement aussi. C'est aussi très dangereux le refroidissement. Quand on devient des chrétiens endormis, des chrétiens dans leur petit confort, on doit aussi veiller, dire hey, « oh, oh, on doit louer le Seigneur, on doit avancer, on doit le servir, on doit évangéliser ». On doit veiller à ce que tout le monde aussi reste pleinement bouillant. C'est aussi ça, veiller les uns sur les autres. Mais nous devons aussi nous protéger contre les déformations de la vérité. On va en parler. Nous devons protéger l'Église et nous protéger les uns les autres des fausses doctrines, des faux enseignements qui peuvent nous faire du mal. Alors, on avait rappelé que tout cela, c'est dans l'amour. Je rappelle et je réinsistais là-dessus. On parle de discipline d'Église. C'est des sujets où on peut dire parfois des choses difficiles, mais c'est toujours dans l'amour. Le cadre, c'est toujours l'amour. La finalité, c'est toujours l'amour. Et donc, je rappelle que si jamais un jour, et je ne vous le souhaite pas, évidemment, ce n'est pas le but, si jamais un jour vous êtes objet de la discipline de l'Église, sachez que ce n'est pas contre vous. Sachez que ce n'est pas à votre encontre, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est toujours pour l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'Église, et puis l'amour de votre âme. L'amour de votre âme, pour que vous puissiez rester pleinement attaché à Dieu. Nous sommes responsables, comme nous le voyons, de corriger nos frères et sœurs avec douceur. Voyons ce verset, je crois qu'on ne l'a pas encore lu. « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc vous voyez, premièrement, que la Bible a tout prévu. Vous voyez, ça c'est un verset qui montre clairement la discipline d'Église. « Frères, si quelqu'un d'entre vous vient être surpris en quelque faute, si vous voyez quelqu'un dans votre église, au niveau de vos frères et sœurs qui dérape, comme ça peut tous nous arriver, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui êtes attaché à Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est-à-dire vous êtes responsable de le redresser, vous êtes responsable de le reprendre, comment ? Avec un esprit de douceur. Vous n'êtes pas là pour le juger, vous n'êtes pas là pour le condamner, vous n'êtes pas là pour le rejeter, mais avec un esprit de douceur, redressez-le. Dites-lui que ça ne va pas. Dites-lui la vérité pour qu'il puisse se reprendre. Et puis, alors que vous le dites, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez fléchir. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ce qui montre bien que nous sommes tous dans le même bateau. Je le répète souvent, par rapport au péché, nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Il n'y a personne qui est immunisé. Donc même quand je dois dire à quelqu'un, « Mais dis, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» Moi-même, je dois faire attention. Même quand je vais dire à Patrick, « Patrick, être voyant, c'est anti-biblique. » Je dois me souvenir aussi que moi, je peux avoir mes tentations et que je peux déraper. Et donc, nous devons faire cela avec douceur. Et le verset 2, c'est un verset que vous avez déjà certainement souvent lu. Souvent, on l'utilise, en effet, pour parler de se soutenir les uns les autres dans nos épreuves. Mais le contexte nous montre clairement qu'en fait, quand il dit « porter les fardeaux les uns des autres », ça veut dire « porter les péchés les uns des autres ». Ça veut dire qu'on doit se sentir responsable, c'est-à-dire soutenez-vous les uns les autres, même dans vos combats, même dans vos péchés. Soutenez-vous, veillez les uns sur les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc nous sommes responsables du fardeau de mon frère. Ce que mon frère traîne, comme difficulté, comme péché, c'est mon fardeau. Je dois l'aimer, je dois le soutenir, je dois l'aider à s'en débarrasser. Donc, les chrétiens d'une église locale sont redevables les uns aux autres de leur vie, de leur comportement et de leur marche chrétienne, et cela fonde la discipline d'église. Nous sommes redevables les uns aux autres de notre témoignage, de notre vie. En d'autres termes, si je suis pris dans une situation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne dois pas être étonné que mes frères et sœurs réagissent, me parlent, me disent des choses. Je ne dois pas tomber des nues, parce que je dois savoir que je suis redevable envers eux de mon témoignage, de ma vie, de ma marche chrétienne. Alors, évidemment que le point basal de la discipline d'Église, on va dire, ben oui, c'est une situation où clairement quelqu'un va vivre dans un péché flagrant, un péché évident. Je prends l'exemple du voyant, ben c'est tellement gros, un chrétien qui est voyant, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est aussi dans des choses beaucoup plus légères. Si tout à coup, je suis chrétien, et moi, j'abandonne ma vie de prière, j'abandonne ma vie d'église, ma vie de culte, si j'abandonne d'être avec mes frères et sœurs dans la présence de Dieu, c'est aussi une situation dans laquelle mon frère doit s'occuper de moi et me dire mais frère, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est juste normal. C'est juste normal. C'est pas du contrôle, c'est pas du suivi à la trace dans lequel on va te mettre un balisage pour savoir où tu es. C'est juste normal que mon frère se dise mais je m'inquiète pour toi parce que je ne te... Dans l'église locale, nous devons veiller les uns sur les autres. J'ouvre une parenthèse en vous disant, je sais bien que c'est un truc qui n'est plus forcément connu aujourd'hui, vous ne voyez pas, c'est normal, vous n'avez pas besoin de voir, mais c'est juste une parenthèse pour dire que il y a quelques siècles, dans les engagements des baptisés, il y avait cet aspect de la discipline dans les questions qu'on leur posait. Alors aujourd'hui, dans les églises, on ne pose plus tellement cette question-là, on la met un peu à la poubelle, mais il y a quelques siècles, dans l'église protestante, lorsqu'on baptisait quelqu'un, on lui demandait « Est-ce que tu confesses Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux vivre en disciple de Christ ?» Et on lui demandait aussi « Est-ce que tu es d'accord de te soumettre à la discipline de tes frères ?» Et la question, regardez ici, donc on lui demandait « Voilà, est-ce que tu renonces, machin, machin ?» Et puis, si désormais tu pèches et que ton frère le sait, accepteras-tu de lui une première, une deuxième et une troisième fois dans l'Église d'être repris ? Accepteras-tu l'admonition fraternelle volontiers et avec obéissance ? Si oui, dis, je le veux. Accepteras-tu que tes frères te reprennent ? Pourquoi est-ce qu'on pose la question aux baptisés ? Parce que une fois que je suis baptisé, je suis publiquement reconnu comme membre de l'Église. Je deviens membre de l'Église de Jésus-Christ et donc, automatiquement, je suis soumis à la discipline de mes frères. Et dès lors, eh bien, on considérait normal que les baptisés puissent dire tout de suite « On est bien au clair sur le fait que désormais, si ton frère vient te reprendre, tu seras conscient que c'est aussi la parole de Dieu. Que si ton frère vient te reprendre, et puis si ton frère seul ne vient, ça ne suffit pas, il viendra avec une deuxième personne, et puis ça arrivera devant l'Église, tu sais que c'est la discipline de ton Église. » Vous voyez combien c'est important. Aujourd'hui, c'est un sujet, tout le monde s'en fiche. C'est biblique, c'est terriblement biblique comme sujet, c'est très important. Alors, j'avance là-dessus, hein, parce que je pense que vous avez compris l'idée. Les membres d'une église locale, c'est qui ? C'est l'ensemble des personnes baptisées qui sont en communion. Ça, c'est ce qu'on appelle les membres d'une église locale. J'insiste, justement, ça tombe bien aujourd'hui, on va demander aujourd'hui aux membres de sortir. J'insiste sur le fait que la discipline d'église s'applique surtout les baptisés en communion, même s'ils ne sont pas membres. Donc si vous n'êtes pas membre de l'Assemblée, mais que vous êtes baptisé, que vous êtes en communion, la discipline d'Église s'exerce sur vous. Et vous exercez cette discipline sur les autres, évidemment. Donc, je le lis, je dis simplement, comme ça on est au clair, chaque Église locale doit être en... Ah oui, ça c'est important. Chaque Église locale doit être en mesure de lister ceux qui sont les membres placés sous le soin des responsables, ainsi que sous la discipline de l'Église locale. Chaque Église locale doit savoir qui sont les membres qui lui sont attachés, pour savoir justement de qui elle est responsable dans le soin, dans la surveillance et dans l'accompagnement. Donc c'est important. Chaque membre de l'Église doit se savoir redevable à ses frères. Les églises locales doivent veiller à une gestion saine des transferts de membres. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire que vous savez que dans la Bible, il y avait la pratique de la lettre de recommandation. Quand les gens se transféraient d'une église locale à une autre, c'est une pratique que l'on continue à avoir aujourd'hui, normalement. Alors les églises aujourd'hui sont tellement, pas ici, mais sont tellement, il y a tellement de mouvements qu'à un moment donné, les responsables abandonnent parce que sinon on n'en finit plus. Mais la procédure, normalement, c'est qu'on doit pouvoir savoir quand quelqu'un change d'église, évidemment d'où il vient, son parcours, mais on doit aussi savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit savoir en le recevant ? Donc moi je vais, par exemple, si quelqu'un vient et me dit, ah oui, moi je vais dire à l'autre pasteur, je vous informe qu'un tel fréquente notre assemblée, avez-vous des choses à me dire par rapport à ça ? Et le pasteur pourrait très bien me répondre, notre frère qui vient d'arriver chez vous est sous discipline chez nous. Ah ! Ben, s'il est sous discipline chez vous, je ne peux pas lui le laisser prendre la Sainte-Seine comme si de rien n'était. Donc il va falloir qu'on traite la question et qu'on dise, soit tu vas dans ton église locale pour régler le problème et pour qu'on enlève la mesure, soit on parle avec ton ancien... Mais on ne va pas pouvoir faire comme si de rien n'était. Et maintenant, c'est ce qui se passe dans les églises. Les chrétiens sont dans une église, ils mettent la zizanie ou alors ils font n'importe quoi et puis ils débarquent ailleurs et on n'est pas au courant. Et on dit, ah ben ça va, c'est pas grave. Et donc... La Bible a prévu ces pratiques qui permettent simplement de s'assurer que tout va bien. Alors évidemment, dans 98% des cas, il n'y a rien à dire. C'est des cas exceptionnels, évidemment. Mais ça fait partie de ce que la Bible institue. D'accord ? Les responsables de l'Église locale sont en charge de veiller sur les membres de l'Église, on l'avait dit la dernière fois, et les chrétiens doivent veiller à respecter la responsabilité de leur Église locale à leur égard. Et donc, le lien avec mon Église locale doit être une référence de notre marche. J'insiste encore une fois, on n'est pas ici en train de parler de contrôle, on n'est pas ici en train de parler de secte, on est ici en train de parler de soins. De soins et d'amour envers nos frères et sœurs. Alors, pourquoi la discipline d'Église ? On va passer à autre chose. On a vu que c'était bibliquement établi, on a vu plein de versets, on a vu plein de réalités. Maintenant, on va se demander pourquoi la discipline d'Église ? Quelle est la finalité ? Quel est le but ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Le Dieu qui nous aime nous discipline pour notre bien. Le Dieu qui a envoyé Jésus à la croix pour nous a fait de nous ses enfants bien-aimés. Et quand on a un enfant bien-aimé dans la Bible, on le discipline. C'est notre sœur, je ne sais plus qui priait tout à l'heure, Dieu nous reprend pour notre bien. Ça, c'est la Bible. Dieu me reprend pour mon bien. Dieu n'est pas un papa gâteau qui me fait des gâteaux tous les jours. Il y a plein de jours où c'est des gâteaux, il y a plein de jours où c'est des bonbons, et puis il y a des jours où c'est autre chose. Il y a des jours où il m'enlève le gâteau parce que je me comporte mal, pour me reprendre, pour mon bien. Et donc la discipline de l'Église, elle s'inscrit dans cette réalité-là. C'est que Dieu n'est pas un Dieu qui nous aime de façon complètement évaporée. Dieu nous aime de façon concrète. Dieu nous aime vraiment. Et Dieu nous aime au point de faire ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas nous égarer. Et donc Dieu nous discipline pour notre bien. Ça, c'est le premier fondement de la discipline de l'Église. Nous avons un Père qui veut notre bien et donc il va veiller à nous reprendre lorsque nous péchons, lorsque nous nous détournons. Parce qu'il sait, premièrement, combien notre nature humaine est faible, et parce qu'il sait aussi combien nous pouvons très vite faire naufrage. Bien sûr qu'il y a, mon petit égarement qu'on croit petit. Il y a mon petit péché, il y a mes petites... Et puis un beau matin, on fait complètement naufrage. Et ça va très vite. Donc le Dieu qui nous aime veut nous garder près de lui. Et donc ça, c'est le premier fondement de la discipline d'Église, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous connaissez ce verset, Hébreux 12, et vous avez oublié l'exhortation qui est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, la correction du Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est normal d'être châtié par son parent, nous l'avons tous vécu. D'être repris. Alors, vous savez que la Bible n'a pas de problème avec le châtiment physique. Ça, c'est, voilà. Aujourd'hui, c'est interdit, mais dans la Bible, c'est pas quelque chose qui est un problème. Mais si on le prend sur le fond, ça veut dire que Dieu n'a pas peur d'utiliser des manières fortes pour nous faire du bien. Et Dieu, j'ajoute là-dessus, et j'insiste là-dessus, Dieu n'a pas peur de nous faire souffrir pour notre bien. Dieu n'a pas peur de faire ce qu'il faut, même si ça nous fait très mal pour notre bien. Si Dieu me châtie, mais que ça me sauve l'âme, mais gloire à Dieu. Si Dieu me châtie et que ça m'évite d'abandonner la foi, gloire à Dieu. Dieu nous châtie pour notre bien. Ça veut dire quoi ? C'est que dans la vie chrétienne, il y a aussi, vous le savez, une part pour la souffrance, librement consentie. Une souffrance pour quoi ? Pour se faire du mal, pour... Une souffrance pour notre bien. Dieu veut nous faire du bien au travers de la souffrance. Et donc, dans la discipline d'Église, il arrive que l'on souffre de la discipline de l'Église. C'est bien aussi de souffrir la discipline d'Église. Alors, quand on le vit, évidemment qu'on n'est pas content. Mais si ça peut sauver mon âme, eh bien, c'est très bien. Je reprends l'exemple que j'avais donné avec Eric. Imaginez-vous, je reprends l'exemple, que quelqu'un, à la fin d'un culte, devant tout le monde, insulte Eric. Il insulte Eric, il l'insulte de tous les noms. Enfin, je ne sais pas pourquoi on insulterait Eric. Il faut être fou pour insulter Eric. Pour m'insulter, moi, ça va, je comprends. Mais Eric, non. Alors, il l'insulte de tous les noms. Et non, pire. Il lui lance un truc au visage. Mais bon, c'est un militaire, donc ça ne lui fera rien. Il fait du mal à Eric. 2 heures plus tard, il rentre chez lui. « Seigneur, je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu fou. » Il demande pardon à Eric. Puis il vient me voir et je lui dis, c'est bien, maintenant, demande pardon à toute l'Église. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Mais je vais être gêné. Mais les gens vont me regarder. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et je lui dirai, c'est ta souffrance. C'est ta souffrance. Ce sera 15 minutes pendant lesquelles tu vas souffrir. Mais tu vas faire du bien à l'ensemble de l'Église en remettant au droit ce qui est juste, au cœur ce qui est juste. Bien sûr que ça va être gênant de dire à tout le monde, frères et sœurs, je suis désolé, dimanche passé, vraiment, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien. Bien sûr que c'est gênant. Mais c'est pour ton bien. Bien évidemment que c'est gênant quand tu reçois la visite de Jean-Pierre et de Benoît avec leurs gros gants. Ils ont des gros gants. Et qui viennent te dire, frère, la façon dont tu vis, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien sûr que c'est gênant qu'on a envie de les frapper. Mais si ça peut sauver mon âme, si ça peut éviter de détruire ma vie, mon couple, ma famille, mais gloire à Dieu! Bien sûr que c'est terrible de recevoir Gino. Alors Gino, lui, c'est le Speedy Gonzalez de la discipline. Gino, c'est ça qui est bien avec lui. Gino, pour lui, la parole, elle est claire. Tu sais si ça plaît à Dieu, tu sais pas. Et donc, il te le dit comme ça vient. Bien sûr que c'est pas agréable. Évidemment que moi, ça me ferait du mal un jour que les anciens me fassent asseoir et me disent, mais ton comportement, mais c'est pas la gloire de Dieu. Bien évidemment, je serais gêné que les anciens me suspendent aux yeux de tout le monde. Je serais gêné, je serais mal à l'aise. Mais si ça peut protéger l'Église, si ça peut protéger mon âme, alors gloire à Dieu. Donc nous devons éviter, évidemment, de manquer d'amour, évidemment. Jamais on ne peut agir avec dureté, on l'a vu, on doit le faire avec douceur. Nous devons éviter, évidemment, de blesser, évidemment. Mais à contrario, nous devons éviter aussi de rejeter la souffrance du châtiment. Dieu nous châtie parfois seul à seul entre lui et nous, mais parfois il nous châtie au travers des autres. Et nous ne devons pas dire « Oh Seigneur, ça fait mal. » Ben oui, Seigneur, ça fait mal, mais ça va aller, je vais me relever. Et il y a plein de chrétiens dans l'Église, et même dans cette Église, qui parfois ont vécu des temps difficiles parce qu'ils se sont retrouvés face à la discipline de l'Église, mais qui ont dit « Seigneur, allez, c'est pas facile, j'accepte, c'est pas facile, je me relève et en avant. » Et c'est ça, comme ça que nous devons être. Et nous ne devons pas nous liquéfier à chaque fois qu'un frère nous reprend. Parce que ça fait partie de ce qui est bon pour notre âme. Donc vous avez d'autres versets ici, vous pourrez les lire à la maison. Mais vous voyez notamment le verset « Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Pour notre bien, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Notre Dieu est un Père qui nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Et cela montre que la discipline fait entièrement partie de la marche avec le Seigneur. La discipline d'Église est un moyen de Dieu pour nous maintenir dans ses voies et dans sa proximité. Pas seulement pour nous éloigner du péché, mais aussi pour nous aider à rester près de Dieu. Évidemment que le chrétien qui abandonne son église ou qui abandonne la prière, il ne pêche pas. Mais il se met aussi en danger de s'éloigner de la proximité de Dieu. Donc c'est aussi ça. Et la communauté locale est un moyen de Dieu pour nous préserver du mal. Autre raison pour la discipline d'Église, raison importante, Dieu veut que son Église soit sainte, pure, tant dans ses comportements, dans ses relations, que dans sa doctrine. En d'autres termes, Jésus vient chercher une Église pure. Jésus ne vient pas chercher une Église complètement destroyée. Jésus ne vient pas chercher une Église où le péché est la norme. Jésus ne vient pas chercher une Église où on fait n'importe quoi, où on enseigne n'importe quoi. Jésus ne vient pas chercher une Église de chrétiens qui vivent dans le compromis, un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Jésus vient chercher une Église pure. Et Dieu veut que l'Église soit sainte, mise à part. Mise à part pour la gloire de Dieu. Dieu veut que son Église soit pure et qu'elle vive en bonne harmonie. Jésus ne vient pas chercher une Église où on passe son temps à médire les uns sur les autres. Jésus ne vient pas chercher une Église où il y a des conflits tous les dimanches. Jésus vient chercher une Église pure, une Église une, une Église droite. Et donc, pour nous préparer à cela, eh bien, il permet la discipline d'Église pour que le péché ne puisse pas dominer, pour que la division ne puisse pas dominer et que la pureté puisse rester la norme. Je rappelle évidemment, hein, parce que je l'ai déjà dit, mais comme vous oubliez beaucoup et que vous voilà, je rappelle. Quand on dit que Jésus vient chercher une Église pure, ça ne veut pas dire que Jésus vient chercher des chrétiens parfaits. Ça veut dire que Jésus vient chercher une Église de chrétiens qui sont attachés à vivre selon la parole de Dieu, qui prennent à cœur les commandements de Dieu. Il vient chercher une Église de pécheurs, bien sûr, mais de pécheurs qui combattent le péché. Pas de pécheurs qui l'acceptent et qui disent « c'est pas grave ». Quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? Le chrétien, il pêche, mais il en souffre. « Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur. » Le chrétien, il souffre de son péché. Et quand on vient lui dire « mes frères, ça ne va pas », il en souffre, dit « Seigneur. Oh, mais j'arrive pas. » Mais ça s'appelle un chrétien. Quelqu'un qui dit « je ne sais pas si c'est un péché ou c'est peut-être un péché, mais ce n'est pas grave », ça ne s'appelle pas un chrétien. Le chrétien se caractérise par la souffrance qu'il a par rapport à son péché. Et c'est en cela qu'on dit qu'il vient chercher une Église pure, parce que le chrétien, lui, va être en combat avec le péché. Alors que le non-chrétien, parfois non-chrétien déguisé dans l'Église, hein, il y a des non-chrétiens dans l'Église aussi. Le non-chrétien, lui, va dire, bah, c'est la vie. Hein. Et le non-chrétien, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on va le reprendre? Il va nous envoyer à la gare. Raison pour laquelle dans Matthieu 18, vous avez vu comment Matthieu 18 termine? Il dit, tu envoies une personne va et reprend le frère, il n'écoute pas. On envoie une deuxième personne, il n'écoute pas. C'est présenté devant l'Église, il n'écoute pas. Matthieu 18 termine, s'il ne t'écoute pas, alors considère-le comme un païen. Pourquoi? Parce que s'il ne t'écoute pas lorsque tu le ramènes à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est un païen. S'il ne t'écoute pas, si moi je vais voir Patrick et que je lui dis « Patrick, être un voyant quand on est chrétien, ce n'est pas possible. » S'il est converti, ça va faire tilt. Il va dire hey, « oh, 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 oh. » S'il me dit « Oh, écoute, eh bien, j'ai là les indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé à l'intérieur de lui. » Et peut-être que parce que je lui dis, là, il se passera quelque chose. Peut-être qu'il comprendra que c'est un chrétien de façade et qu'il va se dire, ah oui, en fait, je croyais que j'étais chrétien, mais... Donc, le chrétien, il est mal face à sa faute parce qu'il veut être saint, le chrétien. C'est son désir. Au plus profond de son cœur, le chrétien veut plaire à Dieu. Le non-chrétien ne s'inquiète pas de plaire à Dieu. Ça, c'est une distinction importante. Christ vient chercher une Église pure. Tu peux passer, s'il te plaît, parce qu'il ne veut plus répondre. Merci. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il vient chercher une église comment ? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il vient chercher une église pure. Il ne vient pas chercher une église où les femmes viennent avec leur amant au culte et où tout le monde regarde ça et ne dit rien. Il ne vient pas chercher une église où les chrétiens s'adonnent à la voyance, à l'astrologie ou autre. Il vient chercher une église pure, une église sainte, sans rides, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La sainteté dans l'Église se joue à deux niveaux. La pureté se joue à deux niveaux. La pureté morale et la pureté doctrinale. La pureté morale, c'est la pureté dans nos comportements. La pureté dans notre façon de vivre, dans notre façon d'agir, dans nos paroles, dans nos mots, dans notre style de vie. Il veut la pureté dans notre comportement, dans notre vie devant Dieu. Mais c'est aussi la pureté doctrinale, la pureté de l'enseignement. Avoir une église où l'enseignement est pur. Hein, on nous parlait il y a quelques semaines de si on nous annonçait un autre évangile. Un évangile pur, un évangile propre, équilibré, et pas des fariboles. Donc Dieu veut que notre église soit pure dans ces deux domaines-là. En fait, il s'agit de la signification même du mot « église ». Le mot « église », dans son étymologie, « ecclésia », signifie « ceux qui sont appelés en dehors ». Ceux qui sont appelés en dehors d'eux. « Église »,« ecclésia », ça signifie un groupe de personnes qui sont appelées en dehors d'un autre groupe de personnes. Ecclésia, ça signifie ceux qui sont appelés en dehors du monde, ceux qui ont été mis à part du monde, qui ont été appelés par Christ en dehors du monde pour être la famille de Dieu. Donc l'Église, c'est un peuple qui doit se caractériser par une vie qui est différente de celle du monde. On n'est pas censé trouver dans l'Église ce que l'on trouve dans le monde. Si vous me dites qu'à votre travail, si vous me dites que l'atmosphère à votre travail à l'église est la même, il y a un problème. Si vous me dites que vous trouvez les mêmes mots, les mêmes blagues à votre travail qu'à l'église, il y a un problème. Si le style de vie de vos amis du basket ou de la natation est le même que dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Si dans l'église on trouve les mêmes blagues en dessous de la ceinture que l'on trouve au club de whist, il y a une chose qui ne va pas. L'église, et c'est pas juste dans l'église le petit bâtiment, hein. C'est pas dire le dimanche matin entre 10h à midi, je ne fais pas de... Non. C'est dans le style de vie, il doit y avoir une différence. Dieu veut que nous soyons différents du monde. Et donc la Bible dit que Dieu, que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Donc nous devons manifester une différence de style de vie par rapport au monde. Et donc chaque fois que l'Église voit qu'on est en train de ressembler au monde, on doit tirer la sonnette d'alarme et dire « Oh, 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 Ecclésia, on est mis à part. » Au plus profond de nous-mêmes, hein, comme je dis, c'est pas juste pour l'apparence, c'est dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon attitude, je suis mis à part, je suis appelé à vivre différemment que les gens du monde. Raison pour laquelle l'Église, et je reviendrai là-dessus, et un but pour que l'Église soit pure, c'est de ne pas normaliser le péché. En d'autres termes, dans l'Église, le péché, c'est l'exception à combattre. Ça veut dire que ça arrive, mais qu'on ne va jamais se comporter comme si c'était normal. Le péché ne peut pas être normalisé. Les attitudes mondaines ne peuvent pas être normalisées. Ça joue sur tout. Ça joue sur ma façon de parler, ma façon de m'habiller. Il doit y avoir une différence. Et je sais que ça paraît très légaliste quand on dit ça, et que tout le monde se dit, mais oh là là, mais c'est dur. C'est la parole de Dieu. L'Église doit se distinguer à tout niveau. Et nous devons veiller à cela. Sinon, nous ne sommes plus l'Église. Sinon, Dieu peut enlever son chandelier. Pourquoi est-ce qu'il mettrait sa présence dans un club de gens qui ne sont pas touchés par sa grâce et qui ne veulent pas vivre d'une façon qu'il glorifie? Nous sommes appelés à être séparés. L'Église est une communauté, une assemblée de personnes qui sont appelées par Christ hors du monde. L'Église est appelée hors du monde. Elle est extraite du mode de vie et des pensées du monde pour vivre selon les valeurs et les principes du Seigneur. C'est dans ce sens que l'Église est sainte, elle est mise à part. L'Église doit être séparée du monde, l'Église doit être mise à part pour Dieu. Bien évidemment, avec nos fautes, nos péchés, nos difficultés, ce n'est pas ça que la Bible vise. Mais nous devons avoir une pensée renouvelée pour avoir envie de plaire à Dieu. Ça, c'est un chrétien, c'est ça, non ? J'ai envie de te plaire, Seigneur. J'ai envie de vivre selon ta parole, j'ai envie de te glorifier. Ça, c'est un chrétien. Et c'est ce sentiment, cette volonté que l'on doit trouver dans le peuple de Dieu. Ça, ce sont des versets qui vont dans le même sens. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambons dans le monde. » Mardi, le frère de Francis me rappelait en partant. C'est un pasteur retraité. Alors, les pasteurs retraités, ils sont extraordinaires. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont extraordinaires. Et puis, ils sont reposés, contrairement à ceux qui sont encore en exercice. Alors, il me dit en partant, en n'oubliant pas que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il m'a rappelé ce verset-là. C'est un beau... On doit le dire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'Église, la discipline d'Église vient pour ça, pour rappeler ça à tout le monde. Quand on se relâche, tous, ça nous arrive dans notre sanctification. On se laisse avoir, tout le monde doit dire eh, « Oh, oh !» Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'Église est sainte, mise à part. Regardez un verset pour soutenir ce qu'on est en train de dire. Éphésiens 5, 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors soit on prend ces versets à la légère, soit on les écoute comme venant de Dieu. Voyez le verset. Ne soit même pas nommé parmi vous. Ça veut dire que normalement dans une église sainte, il y a des choses, on ne doit même pas les nommer, même pas en parler tellement c'est absent. Ça, c'est le standard de sainteté de l'Église. Alors, évidemment, on en est loin. Mais vous voyez à quoi on est appelé, que les choses qu'on entend dans le monde, on ne les entend pas dans l'Église, en rappelant que ceux qui vivent de cette façon n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais été impudique? N'a jamais eu une mauvaise pensée, un mauvais regard? Est-ce que quelqu'un n'a jamais été impur? Est-ce que quelqu'un n'a jamais été cupide, aimé l'argent? Je pense que beaucoup d'entre nous, on se reconnaît dans impudique, impur, cupide. En tout cas, moi, je me reconnais. Mais qu'est-ce qui me distingue? Pourquoi est-ce que je ne suis pas de cette catégorie-là? Parce que moi, mon péché me fait mal, j'en souffre, je le confesse et je me bats pour l'abandonner. Alors que le cupide, l'impudique, lui, il vit dans sa faute. Il ne le confesse pas, il n'a pas mal de son péché, il ne l'abandonne pas. Alors, la discipline, on va bientôt finir, vous en faites pas, vous êtes fatigués, je sais bien. La discipline d'Église est un moyen de croissance spirituelle. Ça, c'est aussi important. La discipline d'Église est un moyen de croissance spirituelle. Dans l'Église, la formation des disciples passe par plusieurs moyens. C'est-à-dire, comment est-ce que dans l'Église, on peut grandir? Premièrement, on grandit par l'enseignement, évidemment. Le fait d'apprendre la parole en groupe, en église ou en petit groupe, en groupe de maison, en réunion de prière, en réunion d'études. Donc premièrement, par l'enseignement. L'enseignement fait grandir le croyant. Mais aussi par les pratiques spirituelles communautaires. Comment est-ce qu'on grandit? Lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on jeûne ensemble, lorsqu'on loue ensemble. Donc les pratiques spirituelles communautaires nous aident à grandir. Comment est-ce qu'on grandit ? Par le mentorat, l'exemple des autres. Alors quand on a un mentor, quand on a quelqu'un sur qui on peut prendre exemple, quand on a quelqu'un qui nous aide à grandir, qui nous donne des conseils, ça nous fait grandir. Mais un autre moyen de grandir aussi, c'est la discipline. La discipline d'Église nous aide tous à grandir dans la foi, à mieux connaître Dieu. Les croyants sont enseignés, repris, avertis, conseillés, exhortés, orientés, réprimandés par la discipline. La discipline nous fait grandir. Je reprends l'exemple de ce frère qui insulte Eric à la fin du culte. Il demande pardon à Eric et puis on lui dit « c'est bien, maintenant il va falloir demander pardon à l'Église ». Il est très gêné, il a mal au ventre, il a mal dormi toute la nuit. Et puis il dit « frères et sœurs, je suis désolé, la semaine passée, ce que j'ai fait, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est, vraiment, j'en suis très désolé ». Il le dit devant tout le monde. Eh bien, les jeunes chrétiens qui sont dans la salle vont apprendre c'est quoi vivre d'une façon qui glorifie Dieu. Les jeunes chrétiens dans la salle vont dire « ah bon ?» Ah, donc c'est ça être chrétien, c'est reconnaître ses fautes, c'est demander pardon. C'est... La discipline nous apprend quelque chose. Elle nous montre ce qui ne va pas. Si vous êtes parent de plusieurs enfants et que vous avez une armoire à bonbons où on ne peut pas aller sans autorisation, et que vous avez un enfant le plus turbulent qui un jour dans une impulsion décide d'aller dans l'armoire à bonbons et d'en prendre, eh bien, votre discipline à l'égard de cet enfant-là va apprendre aux autres qu'on ne peut pas aller dans l'armoire à bonbons. Même chose dans une classe, même chose dans un groupe, même chose dans un match. La discipline pour l'un instruit les autres. Alors, premièrement, la discipline de l'un l'instruit lui-même. C'est le but quand même. Mais ça instruit aussi les autres. Dire, ah, là, j'ai découvert que les principes sont comme ça. Les croyants sont repris, avertis, conseillés par la discipline d'Église. Et j'insiste, la discipline d'Église permet aux chrétiens de grandir et d'apprendre à discerner le bien et le mal. La discipline d'Église apprend aux chrétiens à s'aligner à la parole de Dieu. Par la discipline, on apprend à distinguer ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, et comme ça, on grandit. La discipline a donc une visée formative. Forme, elle nous apprend les principes de Dieu et elle nous apprend à vivre d'une façon qui correspond à la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Je vais finir par ici. La discipline est un moyen de croissance spirituelle, c'est aussi un moyen de soin pastoral. Comment est-ce qu'on prend soin d'un troupeau ? Quand on est berger d'un troupeau, on l'enseigne, on prend soin, on dirige, mais aussi on discipline. Vous connaissez l'image du berger dans la Bible et vous connaissez l'expression « ton houlette et ta bâton et ton bâton me rassurent ». Donc le berger a un bâton, une houlette avec laquelle il prend soin du troupeau. Vous avez ici des exemples de houlettes. Alors, la plupart estiment que la houlette et le bâton, c'est la même chose, c'est le même objet. Un bâton, ici, une houlette à laquelle on trouve un bout incurvé. Ou alors, dans d'autres houlettes, on trouve un petit morceau une espèce de pelle, comme ça. Alors, le berger a un bâton. Et le bâton a plusieurs fonctions. Premièrement, vous voyez ici, quand la houlette est incurvée, elle permet d'attraper une brebis. Alors ici, on montre au cou, mais beaucoup disent que c'est à la patte qu'ils l'utilisent. Le berger peut, à certains moments donnés, voir le besoin d'une brebis qui est en train, par exemple, de s'éloigner et la rattraper. Il peut la rattraper premièrement pour qu'elle se rapproche du troupeau, mais aussi pour la soigner. S'il voit qu'une brebis est malade, hein Benoît ? S'il voit qu'une brebis a une plaie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut prendre son bâton et l'attraper pour la ramener à lui et la soigner pour prendre soin d'elle. Le bâton du berger, la houlette du berger, permet au berger de guider le troupeau. Évidemment, il y a une fonction pour l'ensemble du troupeau. Elle permet de saisir le troupeau pour le ramener, la brebis pour la ramener, pour la soigner. Et le bâton permet aussi de frapper les animaux qui pourraient s'en vouloir au troupeau, les animaux qui voudraient attaquer le troupeau. Ce qui veut dire que dans l'Église, les responsables doivent utiliser la houlette. Ils doivent utiliser la houlette, d'une part, pour prendre soin du troupeau en général, pour guider le troupeau, mais aussi pour attraper les brebis malades. Et pour dire, allez, viens ici, on doit soigner ça. Ou aussi pour frapper ce qui veut s'attaquer au troupeau. Par exemple, frapper les fausses doctrines qui veulent rentrer, ce que la Bible appelle des loups dans l'Église, des loups qui veulent rentrer pour faire rentrer des mensonges. Par exemple, les conflits, les clans, ces choses qui peuvent mettre en danger la communauté, il faut que le berger sorte son bâton et frappe vigoureusement dessus. Pas avec gentillesse, avec douceur, oh mais on verra bien, parfois il faut être sévère. Alors, si malheureusement vous êtes un pasteur ou un ancien qui exerce la discipline, on dira que vous êtes très méchant. Si par contre vous n'avez pas de bâton et pas de houlette, on saura dans toute la Belgique que vous êtes un pasteur sympa. Moi, mon pasteur, il dit jamais rien. On fait ce qu'on veut. Il sourit tout le temps. Il est tout le temps positif. Vous aurez une belle réputation. Mais la Bible nous dit qu'il faut pouvoir avoir le courage de prendre le bâton et de prendre la houlette pour le bien du troupeau, pour le bien des âmes. Alors, lorsque vous priez pour vos responsables présents et futurs, n'est-ce pas, je ne parle pas de ceux et futurs aussi, dites Seigneur, je te demande que dans mon Église, on soit courageux. Seigneur, je te prie pour que tu accordes à mes anciens d'être courageux. Je te prie pour que tu accordes à mon pasteur d'être courageux pour le bien du troupeau, pour le bien de mon âme, pour le bien du troupeau. Qu'il ne soit pas complaisant, qu'il ne cherche pas à être aimé, à être apprécié, mais qu'il fasse ce qui est bien pour les âmes et pour le troupeau. C'est une des vocations de la discipline d'Église aussi. Amen.